Cette séance consacrée à l'une des caractéristiques de Dieu, son omniscience. Alors, comme beaucoup de visages de Dieu ou d'images de Dieu, on peut se dire que c'est soit très exotique et très éloigné de ce qui nous semble être Dieu, soit une image très dépassée qui ne mérite plus d'être interrogée. Alors, très concrètement, qu'est-ce que l'omniscience? On entend le mot science, c'est un rapport avec le savoir, la science, et omni, ça veut dire qu'elle concerne tout. Hein? Omniscience, pour le dire de façon très prosaïque, c'est l'idée selon laquelle Dieu sait tout. Bien. Il sait tout ce qui est. Il sait tout ce qui n'est pas, mais ce qui est à venir. Il sait le possible, il sait l'impossible, et il se connaît lui-même. Donc, vous voyez, l'idée de l'omniscience, c'est l'idée selon laquelle Dieu, bien sûr, se souvient du passé, il a une connaissance absolue du présent, on va le voir à travers quelques textes bibliques, rien ne peut lui être caché, hein, c'est ça aussi l'omniscience. Tout est en quelque sorte invisible devant lui. Mais oui, bien sûr. Il est
Merci.
capable aussi de prédire l'avenir en quelque sorte. Il connaît par avance l'avenir. Il sait aussi ce qui pourrait être mais qui n'est pas. Et donc, il se connaît lui-même. Et on va voir que se connaître soi-même, ce n'est pas forcément évident d'un point de vue intellectuel. Alors, l'omniscience. Pour certains, c'est quelque chose de décisif. Et je vous lis un passage que j'ai retenu d'un pasteur d'une église baptiste qui écrit un article sur l'omniscience. Donc la première partie, c'est descriptif, et puis après, il le justifie. Donc ce pasteur écrit ceci: Dieu a une connaissance infinie. C'est une autre façon de dire l'omniscience. Il connaît toute chose à la perfection depuis toute éternité, qu'elle soit réelle ou possible, passée, présente ou future. Il les connaît de façon immédiate, simultanée, exhaustive et vraie. Alors après, il a quelques phrases sur une sorte de justification. Est-ce que c'est possible? Si l'omniscience de Dieu échappe à notre compréhension, c'est-à-dire si on a du mal à imaginer que ce soit possible, elle n'en est pas moins nécessaire pour fonder et affermir notre foi dans la souveraineté parfaite de Dieu, inspirer un respect profond à son égard et approfondir notre espérance. C'est un argument curieux. C'est un argument qui pose que l'omniscience, il faut y croire pour donner à Dieu de la valeur. C'est-à-dire que c'est un peu un argument de nécessité. Si l'omniscience de Dieu échappe à notre compréhension, elle n'en est pas moins nécessaire, donc c'est en quelque sorte une condition sine qua non, pour fonder et affirmer notre foi dans la souveraineté parfaite de Dieu. Donc finalement, c'est comme si on disait Dieu est omniscient pour garder la grandeur métaphysique de Dieu. Vous voyez, c'est un peu un argument a posteriori. Ça revient à dire Dieu. On veut qu'il soit parfait, donc s'il est parfait, il faut qu'il ait toutes ces qualités-là, parmi lesquelles l'omniscience. Mais ce n'est pas une qualité qui va de soi, c'est une qualité construite a posteriori. Et il ajoute, en même temps, elle devrait produire la préoccupation du salut dans le cœur des pécheurs qui réfléchissent à cette connaissance divine. Donc vous voyez, là c'est un peu un argument utilitariste, c'est de dire. Développer l'omniscience, c'est-à-dire insister sur le fait que Dieu connaisse tout, que Dieu sache tout, c'est ce qui va permettre de rendre les croyants encore plus croyants. Hein, c'est un peu une stratégie finalement. Quelle est la stratégie qui est derrière? Moi, il me semble que on peut la discerner à travers un texte que je n'ai pas mis sur ces feuilles, mais que je vous invite à prendre dans votre Bible, c'est le psaume 139. Le psaume 139, on va le lire tranquillement, et puis vous allez me donner vos avis et votre impression sur ce psaume 139. Alors je vais vous le lire tranquillement, comme ça vous pouvez le lire en même temps dans votre traduction.
139.
C'est un psaume que vous avez peut-être déjà entendu au moins par quelques bribes. Et je vais vous en lire un passage. Je commence au début. Donc l'idée c'est, en l'écoutant, essayer ensuite de dire quels sont les sentiments que cela vous a inspirés, qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment à l'égard de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme n'était pas cachée devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voilà, je m'en tiens là pour cette lecture du psaume 139. Vous avez peut-être un peu de place là-bas si vous le souhaitez. Alors, sans faire des commentaires théologiques très élaborés, mais plutôt en termes de ce que ça vous évoque, un peu les sensations que ça suscite chez vous. On ne peut pas lui échapper. Mais encore. De la crainte.
Un étouffement quand même.
Ouais.
Oui, c'est ça, il y a un peu d'émerveillement quand même.
Émerveillement. Donc on commence à avoir quelques sentiments contradictoires.
Oui. Je trouve que c'est rassurant.
C'est rassurant.
Mais il y a des gens que ça ne rassure pas du tout.
Moi, je trouve ça inutile.
Si ce n'est pas rassurant, on dit que c'est étouffant, oui. Inquiétant. Moi aussi, hein, je trouve cela un peu inquiétant par bien des aspects. Et en même temps, c'est tout à fait compréhensible que ce soit également extrêmement rassurant.
Si Dieu est tout amour, c'est rassurant.
Voilà. Ouais. Oui.
Oui.
Voilà, on peut s'en tenir là dans un premier temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a donc finalement deux forces contradictoires. Une qui va en quelque sorte éprouver une sorte de paix et de sérénité avec cette vision de Dieu. Et l'autre, au contraire, qui va éprouver effectivement une sorte d'emprisonnement, d'étouffement
d'anxiété.
Ou d'anxiété. Alors, c'est intéressant parce que Mircea Eliade, lorsqu'il parle du sacré, il parle d'un terme un peu compliqué qui s'appelle le noumen. Et il dit finalement le noumen, c'est à la fois l'émerveillement, pour reprendre votre terme, et la crainte. C'est c'est en quelque sorte la fascination et l'effroi. Alors peut-être que ce texte dit juste en suscitant les deux sentiments. Si ce n'est que ces deux sentiments sont mêlés dans une assemblée, mais individuellement, on a une lecture univoque de ce psaume. Et alors, ceci pour vous expliquer que l'omniscience peut avoir, comme le suggère ce pasteur, un caractère extrêmement rassurant. Parce qu'en fait, il s'agit d'omniscience. C'est-à-dire extrêmement rassurant, en ce sens que si on est toujours sous l'œil de Dieu, eh bien ça veut dire que Dieu peut veiller sur nous et qu'il peut donc nous protéger. Il peut donc accomplir une sorte de mission d'ange gardien. Vous voyez ? Il peut y avoir cette idée-là. Dans l'omniscience, il peut y avoir cette idée selon laquelle, du coup, rien de notre vie n'échappe au regard de Dieu. A contrario, cette situation peut être extrêmement inquiétante car cela signifie que nous n'avons plus de jardin secret. Que nous sommes donc toujours sous le regard de Dieu et, comme le disait Christiane, si on n'a pas une idée extrêmement aiguisée du Dieu amour, dans ce cas-là, on est non seulement sous son regard mais aussi sous son jugement et donc possiblement sous sa condamnation. Alors, c'est la raison pour laquelle il me semble que l'omniscience a pu être développée chez certains. C'est une façon, en quelque sorte, de tenir les paroissiens. Ça peut être une menace, l'omniscience. Et on peut finalement avoir une prédication culpabilisante en disant « N'oubliez pas que Dieu voit tout, il sait ce que vous faites, il sait ce que vous pensez, et donc, obéissez, il y avait le terme de soumission, soumettez-vous à Dieu, sans quoi vous en paierez le prix. » Donc, vous voyez, puis évidemment, l'étape suivante, c'est de dire, le représentant de Dieu sur Terre, c'est le pasteur, donc, ou le prêtre, ou comme vous voulez, le fonctionnaire de Dieu. Donc, celui qui a l'oreille de Dieu, c'est quand même le prêtre, et donc, il est susceptible de savoir ce qui se trame dans l'esprit de chacun. Donc, vous voyez, il y a une sorte de possibilité à travers l'omniscience d'avoir un pouvoir sur les personnes. Et le soupçon que j'ai, c'est que, pour une part, l'omniscience a été développée pour accroître ce pouvoir que l'on peut exercer sur les consciences. Mais, d'un autre côté, on voit que l'omniscience a aussi des qualités, des vertus. La question pour nous va être de savoir si l'omniscience en tant que telle est un attribut que l'on peut donner à Dieu. Alors, je pense que vous avez toutes et tous une idée en la matière. On va essayer de consulter quelques textes avant de donner ses propres convictions. Quelques textes et puis un argument de la tradition, à savoir que... cette idée de l'omniscience de Dieu est inscrite finalement dans les textes à partir de 382 avec le Concile de Rome, selon l'argument suivant, Dieu peut tout, enfin comment dire, non, c'est plutôt que il y a une infinité de la science divine et que l'Église, parce qu'elle confesse un Dieu infini, et donc infini en toute perfection, doit donc confesser un Dieu infini en intelligence. Et donc l'intelligence va être synonyme de la science, et donc une intelligence qui n'a pas de limite, c'est une intelligence qui est capable de tout connaître et de tout comprendre. Et ça, ça va être l'argument de Vatican I. Donc Vatican I se positionne aussi là-dessus. Donc il y a à la fois le Concile de Rome, donc ça c'est 382, et puis Vatican I. Bonjour. Donc une science de Dieu infinie, ça veut dire une science en toute chose, donc une omniscience pour prendre le terme technique. Le savoir divin porte sur tout et même au-delà. Voici quand même un petit sondage... À vue de nez, comme ça, vous vous positionnez comment par rapport à ce genre d'énoncé ?
comment on peut le savoir ?
Non, mais vous pouvez avoir une intuition ou une intime conviction. Vous pouvez vous prononcer un peu en faveur ou un peu contre. Pas d'avis, vous n'osez pas.
Si Dieu connaissait le futur, parce que le futur serait figé, et ça c'est épouvantable.
Oui. Il va y avoir un argument qui est, alors on va le voir après, mais Dieu connaît les futurs possibles. Vous voyez, ça va être adouci comme ça. Comme un joueur d'échecs connaît les combinaisons, en quelque sorte. Mais qui dit connaître les combinaisons dit qu'il y a un nombre fini de combinaisons. Donc dit que le déterminisme, puisque c'est de cela dont il s'agit, est peut-être un peu élargi, mais il existe quand même. Et ce qui, du coup, peut demeurer assez insupportable pour certains. Bien. Autre aspect par rapport à l'omniscience. On peut le voir tout de suite avec... Donc je vous ai mis des citations bibliques, hein, des versets à chaque fois, un verset, ce qui, en principe, ne se fait pas. On ne le fait jamais, on prend toujours les textes dans leur contexte. Mais c'était pour vous donner quelques versets, et puis vous pourrez bien sûr, dans votre Bible, voir dans quel contexte cela est fait. Mais j'ai délibérément choisi des versets qui vont tous assumer le fait que Dieu serait omniscient. Parce que je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur les textes qui résistent à qui favorisent l'omniscience et qui résistent à notre théologie un peu libérale, qui est que Dieu ne serait peut-être pas forcément omniscient, pour les interroger et voir s'il y en a qui effectivement résistent vraiment ou si on peut en faire quelque chose. Alors, l'Épître aux Romains, au chapitre 11, verset 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu », que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. C'est devenu un cantique, ça, d'ailleurs, un chant. Donc ça, c'est pour vous dire, non pas l'omniscience, mais la science de Dieu, et tout de suite pour vous rendre attentif au fait que le terme grec, qui est en dessous, gnoseos, vous voyez, c'est ce qui a donné gnostique. La gnose, c'est le savoir. Et je me demande, c'est une hypothèse, si, pour une part, l'omniscience de Dieu n'aurait pas aussi été développée à partir d'une intuition gnostique. C'est-à-dire, actuellement, on aurait tendance à dire, pour un croyant, ce qui est décisif, c'est la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Ce qui fait le croyant, c'est sa confiance en Dieu. C'est la confiance qu'il porte en l'amour de Dieu, en la bienveillance de Dieu, dans le fait que Dieu se préoccupe de lui. Voilà. Globalement, en christianisme, de nos jours, c'est comme cela qu'on présente la foi chrétienne. Fut un temps dans l'Église, notamment dans les premiers siècles, où la gnose, Augustin par exemple, a été bercé dans la gnose. Il y a beaucoup de manichéens qui étaient versés dans la gnose. La gnose disait que les vrais chrétiens, finalement, on pourrait dire les élus, et ceux qui étaient détenteurs d'un savoir particulier sur Dieu. Un savoir qui se transmettait d'initié à initié. Et que le bon rapport à Dieu n'était pas un rapport de confiance, mais un rapport de connaissance. Et dans une certaine mesure, ce n'est pas très loin de certains propos qui nous arrivent parfois de tenir, notamment vis-à-vis de nos enfants, qui est de dire... il faut connaître Dieu et il faut connaître sa parole. Il faut savoir quels sont ses commandements pour les appliquer. Vous voyez, il y a une sorte de déplacement de la confiance en Dieu vers un catéchisme bien établi, vers un savoir bien, j'allais dire, bien carré. Et du coup, l'idée peut-être, c'est que l'omniscience de Dieu, c'est une façon de dire qu'il y a aussi une omniscience humaine. Vous voyez, c'est une façon aussi de réévaluer l'homme. L'homme étant appelé à être dans l'intimité de Dieu, c'est un peu comme si finalement on promettait aux croyants que si vous avez vous êtes véritablement croyant, vous saurez qui a vraiment tiré sur John Fitzgerald Kennedy. Vous voyez ? Il y a cette idée selon laquelle... si Dieu est omniscient, alors on participe de sa connaissance spécifique. Et du coup, vous voyez, on suscite le désir. Là encore, je soupçonne un argument un peu utilitariste de commercialisation du divin. Bon, donc, ce premier texte, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables », il y a cette idée que l'on retrouve aussi chez Ésaïe, d'une distance entre la connaissance de Dieu et la connaissance de l'homme. Bon, chez Job aussi, on va beaucoup l'entendre. Et si je vous avais mis la traduction latine, vous auriez vu que le terme latin, c'est « scientia », et c'est de là que vient « science ». Donc, « gnose »,« scientia », »,« science », »,« savoir », on est vraiment dans le même champ sémantique. Ensuite, juste à côté, je vous ai mis l'épître aux Colossiens. Donc, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pour vous dire qu'il y a une distinction entre la sagesse et la connaissance, entre la sophia et la gnosea. Gnosis. Augustin, lui, ne fera pas cette distinction entre la sagesse et la science des choses. Mais il y a ici une distinction qui est faite, et elle va être faite également chez Ésaïe au chapitre 11. Le chapitre 11, c'est ce qui concerne Emmanuel, hein, c'est l'enfant qui doit venir. Et on dit que sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. C'est important de faire la distinction entre la sagesse et le savoir, parce que c'est ce qui va déterminer la façon dont Dieu connaît. Comment Dieu connaît-il ? Quand vous voulez connaître quelque chose, vous en faites en quelque sorte l'expérience ou vous lisez une définition sur la chose observée. C'est-à-dire que soit vous partez de la théorie et vous la confirmez par la pratique, soit vous partez de la pratique et vous essayez de mettre des mots sur cette pratique. Donc soit c'est inductif, on part de l'expérience et on en tire une conclusion, soit c'est déductif, on part de la définition et on le vérifie dans la vie quotidienne, dans la pratique. Ça, c'est l'expérimentation qui est le savoir. On va le voir avec un terme après. La sagesse, elle ne fonctionne pas comme cela. Et la sagesse, du coup, est mise en évidence aussi pour dire la sagesse, c'est ce qui embrasse du regard, mais c'est ce qui embrasse tout court, en fait. C'est-à-dire que la connaissance que Dieu va avoir d'une situation, elle ne se fait pas par des expériences successives, elle ne se fait pas en lisant les encyclopédies, elle se fait de façon immédiate. Les philosophes du Moyen-Âge vont beaucoup insister là-dessus, et notamment les mystiques, bien évidemment, en disant... pourquoi Dieu connaît-il toute chose ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu se repose en lui-même. Et se reposant en lui-même, il observe tout ce qui vient de lui. Et au fond, tout ce qui est de Dieu, et dans une certaine mesure, est Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une observation de Dieu qui permettrait à Dieu de connaître le réel. C'est simplement le fait que Dieu n'est étranger à aucune chose. Alors, on saute tout de suite au psaume 69,6, parce que ça reprend un peu le psaume 139. Et puis vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Dieu, tu connais ma sottise et mes fautes ne te sont pas cachées. Donc, toujours la question de la gnose, c'est toujours le terme qui est à la racine, hein, compris avec le verbe ginomai. Dieu qui connaît ma sottise, qui connaît mes fautes, des fautes qui ne peuvent pas être cachées, qui ne peuvent pas être dissimulées, Dieu qui perce tous les coffres forts de notre vie. Bon, comment est-ce que vous en faites quelque chose de ça? Vous pouvez tout simplement y adhérer, en bonne et due forme, ou vous poser quelques questions à ce sujet.
Oui. Ça me fait penser à Caïn. Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn.
Oui. Et c'était l'œil de qui?
Ben de Dieu.
De la conscience.
Alors, Hugo intitule ça la conscience.
Ah, la conscience, oui, la conscience.
C'est
oui.
L'œil de sa conscience.
C'est l'œil de sa conscience,
ouais,
exactement.
Oui. De la conscience de?
Ben de...
De Caïn, voilà. Non, il vaut mieux préciser les choses. Il y a pas longtemps... Ça peut être l'œil de la conscience de Dieu.
Ah non, non, non.
Ouais, mais vous dites, ah oh, non, non, la conscience de Caïn, mais...
Oui, mais...
Mais...
La conscience de, peut-être de Dieu à travers...
Voilà. Peut-être. Ouais. Disons qu'il y a peut-être des articulations qu'il va nous falloir créer, là. Bon, premier aspect, ça vous fait penser très bien à Caïn qui est poursuivi par sa conscience et qui, même en s'enterrant, est toujours sous le regard de cet œil, un peu comme l'œil qui est dans le triangle sur les dollars. Est-ce que ce verset, vous le prenez pour argent comptant? Est-ce que dans votre expérimentation personnelle, c'est quelque chose qui vous est familier, qui vous serait plutôt étranger, qui vous donnerait plutôt de l'urticaire, qui vous semble incompatible avec votre... compréhension ou image de Dieu, ou qui au contraire la corrobore?
Moi, ça me fait quand même un peu penser, on semble à une position qui est assez courte dans la vie des petits enfants, où à la fois leur père, leur mère, ils sont tout puissants, et ils ont besoin de ça aussi pour se construire. Ils projettent beaucoup de choses, comme on dit en psychologie, sur ces êtres très grands, magnifiques, qui leur ont tout appris, qui leur ont donné la vie. Mmh. Mais en même temps, c'est un peu duel parce que quelquefois ça va les révolter, enfin, ils s'acheminent aussi vers ça, donc c'est un peu un double tranchant, un peu dangereux en fait, comme pense si ça perdure trop longtemps.
Oui.
Et enfin, moi je retrouve beaucoup de ce genre de choses dans ces phrases, à la fois la crainte et à la fois l'émerveillement et l'étouffement et la rassurance. Moi, ça me fait vraiment plaisir.
Il y a un processus vital, en tout cas, qui...
Immaturité, ça installe une certaine immaturité.
Bah, là, vous parlez plutôt de maturité, c'est-à-dire que c'est un stade qui va déboucher sur autre chose.
Voilà.
Un stade de maturation, en fait, disons que c'est une maturation.
Maturation.
D'accord.
Il y a besoin de créer cette espèce de procédé, parce qu'en même temps, si Dieu voit ma sottise, d'ailleurs qu'il est tel, et mes fautes, et que ça ne m'est pas caché, et que je ne suis pas transformée en poussière, quelquefois... C'est rassurant, je me dis
que
je peux continuer à
être
toujours
sous l'œil
de
Dieu. Oui. Je dirais que ça aide un peu à la confession, puisque Dieu voit tout, c'est peut-être plus facile pour nous de dire bah oui, je suis comme ça. Quoi. Ça pousse un peu à faire ça. Donc c'est peut-être même un peu rassurant. Ça aide un peu. Quoi.
Oui. Mmh. Ah, oui. Ça débloque la situation.
Ça débloque une situation.
Finalement, on ne peut que passer aux aveux.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Ça.
Et on compte sur la miséricorde.
C'est ça. Mais est-ce que ça serait un peu comme cet enquêteur qui, pendant l'interrogatoire, dit bon, de façon, on sait ce qui s'est passé. Si vous avouez maintenant, votre peine sera réduite.
Non, c'est pas une bonne
nom. Non, oui. D'accord.
Mais...
C'est plutôt une forme de libération, finalement. Oui. Oui.
Oui, mais je voulais mettre le mot qu'a dit madame en plus. Entre parenthèses, il peut y avoir aussi la... Vous avez dit le mot crainte, mais il y a peut-être la peur aussi.
Mmh. Mais c'était un peu dans cet esprit-là que vous disiez.
Oui, non, mais crainte et peur...
C'est... La crainte, dans la perspective biblique, c'est plutôt le respect, à vrai dire. C'est un respect avec beaucoup de révérence. Hein, c'est pas la crainte au sens frayeur.
Oui, frayeur, c'est ça, voilà.
Voilà. Les craignants Dieu ne sont pas ceux qui ont peur que Dieu leur tombe sur la tête. Les craignants Dieu sont ceux qui respectent Dieu. Voilà, c'est une catégorie de croyants, ça serait un peu les croyants non pratiquants, hein, oui. Globalement, dans la société biblique. Mais là, c'était plutôt la crainte au sens on a peur qu'il nous arrive quelque chose de fâcheux.
Ouais. Oui, mais c'est ça.
Oui, oui. Oui, c'est révérencieux malgré tout. Oui.
Parce que dans le contexte, vous disiez, moi je mets dans la pensée de l'époque, on mettait la peur partout aussi.
Mm-hmm.
Crainte.
Oui, oui. Ouais. Un autre. Donc là, on a vu deux enfin trois même. Je reviens sur ce que vous disiez, au sens où ça peut être libérateur pour la confession. Il y a un autre aspect qui. Enfin, il peut y avoir une autre conséquence ou un autre fruit de ce genre de dispositif intellectuel, puisque rien ne peut être caché. Donc, on est toujours sous le regard de quelqu'un. Ça peut vous faire penser au mythe de Gyges ou Gyges chez Platon. C'est le mythe de l'anneau qui rend invisible, l'homme invisible. Peut-être que vous avez vu le film ou des choses comme ça. Que nous raconte ce mythe ? Que l'invisibilité est un sérieux problème pour une société. Parce que quand quelqu'un devient invisible, qu'il cesse d'être sous le regard de l'autre, alors en fait, il n'y a plus de limite à son action. C'est-à-dire que le regard de l'autre a un côté coercitif qui nous empêche certains passages à l'acte. C'est-à-dire que quand on est sous le regard de l'autre, eh bien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et de façon générale, on ne se comporte pas à l'extérieur comme on se comporte chez soi, des fois. On peut dire que c'est plutôt salutaire et que le regard de l'autre est plutôt bénéfique pour la société. Ceux qui se pensent invisibles sont ceux qui ont tendance à enfreindre plus rapidement les codes moraux, la loi. L'idée de Platon, qu'on retrouve notamment dans le film « L'homme invisible », je crois, c'est qu'à partir du moment où on a cette capacité à être invisible, bah, finalement, on devient voleur puis meurtrier. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas à subir les conséquences de nos actes. Parce qu'on ne sera pas rattrapé par la justice, parce qu'on ne pourra jamais établir les faits. On pourra toujours nier, en quelque sorte. Et, vous voyez, cette idée de l'omniscience de Dieu, ça signifie qu'on ne peut pas échapper à ce que l'on fait. Alors, ça reprend cette idée de la conscience qui nous suit. Donc, à la fois, ça peut être libérateur pour la confession, et puis en même temps, ça peut prémunir de certains passages à l'acte. Disons que ça peut construire, j'allais dire construire une morale. Non, ça ne construit pas la morale, ça la renforce, enfin, ça la rend opérationnelle. Parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour savoir ce qu'on a fait. Du coup, on est moins tranquille pour faire librement. Oui. Enfin, ça provoque une limitation par l'extérieur, finalement.
C'est un peu la peur du gendarme, quoi.
Ouais. Ou du quand dira-t-on ?
Ou du quand dira-t-on ?
Ou du quand pensera-t-on ? Oui, vous savez, c'est comme chez soi, une fois que les volets sont fermés, bon, ben, il se passe pas forcément la même chose que quand les fenêtres sont ouvertes sur l'extérieur.
Ah.
Mais bien entendu. Souvent, une fois que les volets sont fermés, que les drames arrivent. Et d'autres choses aussi. Bien. Bon, ben là, on ne peut pas fermer les volets. Dans cette perspective-là. Et ça change, en fait, la donne. La question est de savoir si c'est juste de dire cela ou pas. Vous voyez, par rapport à ce que disait ce pasteur, ben du coup, l'omniscience, c'est bien, c'est utile, c'est pratique. Hein, ça conditionne. Vous voyez, ça conditionne, c'est-à-dire que ça a des effets, l'omniscience. Et les images de Dieu, en fait, c'est intéressant de les interroger parce qu'elles conditionnent des comportements. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui résistent un peu à cette phrase selon laquelle Dieu connaîtrait ma sottise et n'ignorerait rien de mes fautes ?
Mais j'en suis pas sûre.
Vous n'êtes sûr ni de ceci, ni du contraire. Bon, ça, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Enfin, je veux dire, après tout, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse dire. Mais on peut quand même essayer de voir ce qui est le plus vraisemblable, en quelque sorte, ou le plus crédible, le plus digne de foi.
Je trouve que ce serait bien.
Ça serait bien, aussi. D'accord. Bon, oui. Très bien. Enfin, quand je dis très bien, c'est bien d'avoir une conviction. Je ne suis pas sûr de la partager, mais il vaut mieux avoir une conviction que de ne pas en avoir. Très bien. Ouais, c'est un argument. Mais
des choses importantes.
Ouais. Dans tous les détails.
Mais ça, c'est l'argument du Père Noël qui ne peut pas donner un cadeau à chacun, sinon il dépasserait la vitesse de la lumière et avec la chaleur du frottement, il l'imploserait en plein vol.
C'est l'argument de aussi la rédemption. Pas tous ces corps ressuscités.
Oui, si on était tous ressuscités, il n'y aurait plus assez de place sur Terre.
Oui.
Ouais. Alors ça, c'est dans un autre registre. Mais, j'allais dire, en quelque sorte, pour neutraliser votre argument, non pas parce que ça me fait plaisir, mais pour vous dire un peu quelle a été la réponse de quelques philosophes, c'était justement celle que j'évoquais tout à l'heure sur la sagesse de Dieu, hein, qui est une sagesse qui embrasse le tout, puisque Dieu est tout. Hein, c'est dans cette perspective platonicienne, d'ailleurs, du Dieu qui est l'unité, qui est l'un. Et donc, rien n'est en dehors de Dieu.
Pas de limite.
Pas de limite. Dans une perspective juive, notamment hassidique, Dieu se retire pour que le monde existe. Hein, c'est le principe du tzimtzum. Donc, il y a une vraie extériorité de Dieu par rapport au monde. Donc, il se pourrait, là, que des choses soit échappent à Dieu, soit que Dieu n'ait pas le temps de s'occuper de tout, parce qu'il faudrait qu'il fasse des allers-retours, en quelque sorte. Mais dans cette perspective là que j'étais en train de vous développer, il n'y a pas de question de Dieu a le temps ou pas. D'abord parce que la question du temps, en fait, du point de vue de Dieu, n'existe pas. Et que tout se fait dans un seul moment pour Dieu. C'est-à-dire que ce que nous fractionnons en unités de temps, pour Dieu, n'est qu'une seule scène, dans cette perspective-là. Enfin, dans cette perspective-là, celle que je suis en train de vous dire par rapport à la théologie catholique, en fait, hein, avec quelques soubassements philosophiques. On passe à 1 Roi 8. 1 Roi 8, c'est la prière de Salomon au moment de la dédicace du temple. Vous vous souvenez, la fois dernière, on avait vu le verset 8 du chapitre 8, quand on parlait des barres qu'on voyait pas, etc. Bon, là, on va un peu plus loin. « Toi, écoute depuis le ciel la demeure où tu habites, pardonne, agis, et traite-le selon toute sa conduite, puisque tu connais son cœur. Toi seul, en effet, connais le cœur de tous les humains. » Vous voyez, ça répond directement à votre question. Dieu connaît le cœur de tous les humains. Donc, il connaît, en fait, à la fois les pensées, mais aussi les motivations. C'est-à-dire que le cœur, ce n'est pas le lieu des sentiments, c'est le lieu de la réflexion dans la Bible. Quand on dit que Marie repasse toutes ces choses dans son cœur, ça veut dire qu'elle y pense, sérieusement. Le cœur est aussi le lieu de la prise de décision,
hein,
du courage et de l'engagement, de l'action. Ce n'est pas simplement le lieu des émotions et de compter fleurettes.
As-tu du cœur dans la...
Non, j'ai du pic. Non, j'ai du pic. C'est dans Marius, non? D'accord. Ok. Donc. Oui.
Faites-le selon sa conduite, ça c'est.
Donnant.
Ouais.
Mais. Oui, mais vous voyez comme tout de suite on s'engouffre dans des brèches qui n'existent pas. Traite-le selon ce qu'il a fait. Tout de suite, on se dit, bon, il a fait une faute, tu le punis. Mais qui vous dit que c'est ça, traiter selon son comportement? Est-ce que...
Hypothèse.
Est-ce que quelqu'un qui aurait beaucoup péché ne devrait pas être d'autant plus aimé en retour?
C'est biblique.
Il me semble que ça peut être biblique, voire théologique.
Oui.
C'est devenu politique aussi. C'est cette idée selon laquelle ceux qui ont beaucoup de difficultés par leur origine sociale doivent être d'autant plus aidés. C'est ce qui a motivé notamment le directeur de Sciences Po d'avoir un contingent de places réservées à des élèves venant de lieux défavorisés. En vertu de ce principe selon lequel, traiter selon le comportement ou selon la situation, ça peut être non pas un prêté pour un rendu, mais casser une spirale, un cercle vicieux, pour rentrer dans un cercle vertueux. Par exemple, je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont été enseignants, mais des fois, je le tiens de la bouche d'enseignants, certains enseignants donnent délibérément des notes, si ce n'est bonne, du moins convenable, à des élèves qui ne les méritent pas, pour les encourager, pour leur donner de l'enthousiasme, pour leur faire croire qu'ils sont capables de réussir. Et le fait de croire qu'on est capable de réussir fait qu'on réussit, fait qu'on a plus de vigueur dans l'apprentissage et donc, par la force des choses, de meilleurs résultats. Mais un devoir, ils auraient dû avoir 5, 6, ils ont 10, 11, et ça suffit à débloquer une situation. Bon, vous voyez, traiter selon notre comportement, dans une perspective biblique ou théologique, ça peut être autre chose que châtier les coupables et récompenser les bons. Ouais. La justice, ce n'est pas forcément l'équité. Ouais. Bon. Donc, on a Dieu qui connaît les pensées secrètes de l'homme, Dieu qui connaît les fautes et les offenses, Dieu qui connaît le fond du cœur, et on pourrait dire de l'esprit. Jérémie, alors là, peut-être que vous allez commencer à résister un peu. « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. » C'était un peu déjà ça dans le psaume 139. Hein. « Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Bon, là, connaître avant que ça existe. C'est ça.
Où est la liberté du chrétien?
Où est la liberté du chrétien, là? La liberté de l'homme tout court, d'ailleurs. Ouais, ouais. Alors, une réponse, c'est de dire, il n'y en a pas. Vous savez que pendant des siècles et des siècles, sans amen, on était dans une théologie qui refusait à l'homme le moindre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est après les Lumières, à vrai dire. Même la Réforme n'est pas dans le libre-arbitre, à part quelques théologiens. Luther est dans le serf-arbitre.
Oui.
Ah oui. Ouais, ouais. En vertu, notamment, de cette idée selon laquelle le péché originel existe. Alors, bon, le péché originel, on l'avait déjà fait sa fête il y a quelque temps, quand on avait eu nos séances sur le salut. On avait vu que c'était une invention d'Augustin, que le péché originel... Un, n'existe pas dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève. Il n'est pas question de péché déjà dans le texte. Donc il n'est pas question forcément de péché originel. Enfin, on ne retrouve pas dans les textes bibliques l'idée selon laquelle Adam, figure mythologique, ayant croqué la pomme avec Ève, fait que de père en fils et de mère en fille, le péché se transmet de façon génétique en quelque sorte. Et chez Paul, qui évoque cette idée selon laquelle... De même que le péché serait rentré par un homme, il dit, bon, admettons que ce soit vrai, de toute façon, avec Jésus-Christ, le péché est sorti par un homme. Donc la question du péché originel, de toute façon, est neutralisée par l'événement Jésus-Christ. Donc, mais à l'époque même de Martin Luther, l'idée du péché originel est tout à fait en vogue, et elle annule la question de la liberté de l'homme. Finalement, l'homme, c'est quoi? On pourrait dire c'est un être doué de liberté, au moment du jardin d'Éden. Eh bien, le péché originel lui confisque la liberté. C'est-à-dire la liberté au sens où il pourrait par lui-même connaître le bien, et donc le bien désiré par Dieu. Augustin et les autres vont insister sur le fait que la grâce est devenu nécessaire pour l'homme parce que l'homme par lui-même ne peut plus bénéficier d'une sorte d'inclination naturelle vers le bien. Donc la grâce est nécessaire pour rectifier cela. Et la grâce est nécessaire pour le salut de l'homme, parce que l'homme par lui-même est incapable de quoi que ce soit de bon. Ça, les termes sont extrêmement bien dits dans la prière de repentance de Jean Calvin, par exemple. Donc la liberté, de toute façon, elle a été sévèrement malmenée au fil des siècles. Mais de fait, l'omniscience en rajoute une couche. On peut se dire, si Dieu sait tout à l'avance, quelle est la part qui nous reste? Alors, comme je vous l'ai suggéré un peu, il y a une réponse qui consiste à dire, Dieu sait par avance l'intégralité des possibles. Et il connaît l'intégralité des possibles, d'accord, mais du coup, on peut imaginer aussi qu'il sait quel est le cheminement qu'on va prendre. S'il sait à l'avance le chemin qu'on va prendre, bon, bah, en fait, c'est que le chemin a été tracé par avance et qu'on joue un jeu de dupes. Ça vous semble raisonnable, ça? Non. Non, je veux dire, ce que je vous dis sur le plan de la logique vous semble raisonnable. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de jouer un jeu de dupes? Très bien, mais bon. Oui, oui, je comprends bien. Bon, ça va, vous me rassurez. Ah oui. Ce que l'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que, comment dire, le divin, c'est, comment dire, on va le voir avec un autre passage que je vous indique tout de suite. Ben, le passage suivant, les événements avant qu'ils arrivent, Ésaïe 44, verset 7. Allez, je vous laisse un peu la parole. Qui nous lit juste le verset 44, verset 7 ? Juste un tout petit verset en haut à gauche.
Qui est comme moi ? Il prend la parole, il annonce ce qu'il en est et il le développe. Depuis que j'ai établi le peuple du passé, qui disent les choses qui arriveront et celles qui viendront, qu'on nous les annonce.
Mmh. Donc, à partir de cet épisode, on peut se dire qu'il y a le côté prédictif de Dieu en plus. Hein, ce n'est pas simplement Dieu qui connaîtrait le champ des possibles, mais finalement, il sait précisément ce qui va arriver. Comment cela peut-il s'expliquer? Eh bien, peut-être parce que on pourrait considérer, en tout cas certains le font, que Dieu est dans une certaine mesure capable d'anticiper les choix qui vont être faits. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il sache exactement ce qui va se passer, mais il sait que dans une situation donnée, la réponse apportée par l'homme sera de cette nature. Certains ont même essayé de mettre cela en mathématiques, avec la théorie des jeux. C'est-à-dire que finalement, on pourrait assimiler toute vie à une sorte de jeu dans lequel plusieurs options s'offrent à nous. Donc on pourrait imaginer une situation initiale de départ, et puis on a deux voies possibles. Alors, je sais pas, on n'a qu'à prendre l'exemple avec Adam et Ève. On pourrait dire, d'un côté, Dieu met un arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'arbre. Je veux dire, il n'est capable de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, ça aurait peut-être réglé les problèmes. Bon. Une fois qu'il y a un arbre, il peut soit prévenir Adam, donc on va appeler ça la Torah. La Torah, c'est l'enseignement. Soit pas de Torah. Soit il lui dit, soit il ne lui dit pas. Et puis, après, pour chaque élément, il peut, par exemple, donner des bras à Adam ou pas de bras. Selon l'adage, pas de bras, pas de fruit de la connaissance du bien et du mal. Et là, pareil, bras ou pas bras. Hein. À chaque fois, ça se démultiplie. Bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les théoriciens, ensuite, vont donner des valeurs à chaque choix à partir d'un critère. Et par exemple, le critère de la liberté. Eh bien, il apparaît que... Donc, finalement, on en est là. Hein. Il apparaît que, finalement, on a le meilleur rapport entre Dieu et l'homme par le chemin qui est pris par le texte biblique sur à la fois la divinité de Dieu et la liberté de l'homme. C'est-à-dire qu'on a le résultat où personne ne perd complètement. On a le meilleur équilibre entre les deux. Donc c'est une façon de dire, pour l'analyste de cette, qui utilise cette méthode, de dire Dieu est capable d'évaluer l'ensemble des situations, de leur attribuer une valeur, et donc d'influencer autant qu'il peut les situations pour qu'elles prennent plutôt tel ou tel embranchement. Donc, l'intérêt de l'omniscience, c'est de permettre à Dieu de pouvoir porter une sorte de jugement moral sur le monde pour encourager le monde dans la direction qui est la meilleure pour lui et pour le monde. Donc il y a une sorte de vertu à l'omniscience. Sans l'omniscience, cela serait plus compliqué, vont dire ces logisticiens. De même que si le joueur d'échecs n'est pas capable d'évaluer à 5, 10, 15 coups ce que va produire tel déplacement, il risque d'être pénalisé par rapport à l'adversaire qui, lui, serait capable et va voir toutes les ramifications possibles et donc voir toutes les conséquences et donc voir s'il y a des déplacements qui seraient plus catastrophiques que d'autres.
C'est quand même un peu enfermer Dieu dans une logique toute humaine, non ? C'est presque un anthropomorphisme.
Oui, en tous les cas, c'est une réflexion à partir de nos catégories mentales.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'auto-révélation, ce qui serait quand même le mieux, c'est-à-dire Dieu qui se révèle lui-même directement à nous sans aucun média, sans aucun intermédiaire, c'est quand même assez limité dans l'histoire humaine. Même dans les textes bibliques, c'est toujours médiatisé. Donc ça passe toujours par le filtre de la conscience humaine et de la culture humaine. Et même les textes bibliques sont eux-mêmes traversés par la culture et de leur époque et de leur linguistique et de leur religiosité. Donc le travail consiste à essayer de dégager la révélation de sa gangue culturelle pour retrouver le noyau primordial, en tout cas.
Par l'esprit, peut-être, c'est possible.
Oui, mais... Comme on n'est pas sage à la manière de la sagesse de Dieu, on est obligé de faire travailler l'intelligence à la manière humaine, qui est un aller-retour entre la théorie et l'expérimentation, je pense. Et donc d'essayer des hypothèses pour voir si, un, ce sont des modèles qui fonctionnent, et puis deux, si ce sont des modèles qui rendent les choses plus compréhensibles et plus claires. Plus acceptable aussi, dans une certaine mesure. La question, justement, qui peut découler de ce que vous dites, c'est la question que j'évoquais. Dieu se connaît-il lui-même ? Alors, Je suis d'accord avec vous, même si vous ne le dites pas. C'est quand même une question vraiment pour théologiens. C'est vraiment une question style baccalauréat. Qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne de savoir si Dieu se connaît lui-même ou pas? Bon, déjà, ça nous fait réfléchir, ce qui n'est pas tout à fait inutile. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on se pose une question, c'est que ça permet aussi de poser d'autres questions qui sont connexes et puis d'établir quelques fragments de vérité relatifs. Et puis, ça va nous permettre de faire un peu connaissance avec deux courants de pensée un peu opposés. D'un côté, la perspective platonicienne et de l'autre côté, la perspective aristotélicienne. Vous voyez tout de suite que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni de Platon ni d'Aristote. Donc, j'essaie de vous restituer ce que j'ai pu en comprendre en troisième main. Oui, c'était des Grecs. Oui. Si, si, mais disons qu'ils sont représentatifs de deux pôles distincts. Et après, tout va se rattacher un peu à leur approche. C'est-à-dire que ce sont deux principes de réflexion distincts. Et après, je ne dis pas que tout en découle, comme si c'était les principes. Mais globalement, il y a un clivage entre les deux. On pourrait dire entre la gauche et la droite, et dans une certaine mesure, on arrive quand même à raccrocher soit un pôle, soit l'autre. Le premier pôle, donc platonicien, c'est que, ce que je vous disais, en principe, pour connaître quelque chose, il faut qu'il y ait une distance entre le connaissant et le connu. Il faut qu'il y ait un écart d'observation, en quelque sorte. D'ailleurs, vous le ressentez bien vous-même. Souvent, les gens vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ils ne savent pas ce que vous espérez. Ils ne savent pas ce que nous espérons. Nos pensées, nos désirs secrets d'accomplissement, etc. Soit. Mais pour ce qui est de notre caractère, etc., ils en savent plus long que nous. Souvent. Enfin, souvent. Dans la perspective platonicienne, Dieu, c'est le grand 1, UN. C'est la grande unité, hein, je vous disais. À partir de là, il faut donc en conclure que Dieu ne peut pas se connaître. Dieu ne peut pas se connaître. C'est pourquoi quelqu'un comme Denis l'Aéropagite n'hésite pas à dire que Dieu n'a pas d'activité intellectuelle. Dans son traité des noms. C'est intéressant, ça, de dire que Dieu n'a pas d'activité intellectuelle. Parce que pour la question de l'omniscience, ça aide quand même. C'est ennuyeux ou on a enfin une réponse. Comment justifier le fait que on aimerait bien dire que Dieu n'est pas omniscient, mais on ne sait pas pourquoi il ne le serait pas, effectivement. Là, il y a là un élément intéressant chez Denis l'Aéropagite qui est vraiment porteur d'un courant qui sera à la fois un peu sur la mystique et la théologie négative, qui est donc de dénier à Dieu justement cet anthropomorphisme d'une activité intellectuelle. Dieu ne peut pas connaître au sens où nous connaissons les choses. Mais, je vous le mets déjà en germe, c'est peut-être parce que justement, Dieu n'est pas détenteur d'un savoir. Pourquoi ? Peut-être, je vous le dis à nouveau en germe, peut-être parce que Dieu n'est pas. Point. Au sens où cette table est. C'est-à-dire non doué d'une capacité de raisonnement parce que ça, le mode d'être de Dieu n'a rien de commun avec notre mode d'être. Peut-être parce que justement, Dieu ne relève pas de l'être.
Il n'est pas humain.
Il n'est pas humain.
Je ne dirais pas comme ça justement, mais ok. Scott Erigène, Jean Scott Erigène, un théologien du 9e siècle, pas très orthodoxe, hein, qui nous vient d'Irlande, Il dit Dieu ne se connaît pas. Je vous cite Scott Erigène parce qu'il y a un gros mot magnifique. Dieu ne se connaît pas, ça signifie Dieu ne se connaît pas dans sa cuidité.
Cuidité.
Dans sa cuidité. C'est le cuid latin. Quoi ? Car Dieu n'est pas un quid. Ça veut dire que Dieu n'est pas un objet. Quid, c'est quoi ? En latin, quid, c'est quoi ? Et donc, c'est la cohabilité, en quelque sorte, pour reprendre Mark Anwaknin dans sa formulation hébraïsante. Dieu n'est pas un quid, Dieu n'est pas un quoi, Dieu n'est pas un objet. N'est pas un objet comme la plupart des existants connaissables, enfin comme l'ensemble des existants connaissables. Dieu n'est pas connaissable comme on peut connaître une table, comme on peut connaître une institution, comme on peut connaître un sentiment même, à la limite. Dieu demeure inconnaissable pour lui-même et pour toute intelligence. Ça, je trouve quand même que ça renouvelle un petit peu la question. Bon, vous pouvez pas être d'accord. Il y a souvent dans les textes bibliques, notamment dans l'Ancien Testament, vous savez, quelques interdits relatifs à Dieu, et notamment la question du nom. Vous savez, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Il y a un petit verset tout à fait intéressant que je ne vous ai pas mis, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 13, le verset 18, ça se passe entre Manoa et un ange de l'Éternel, donc un messager du divin. Manoa lui dit au verset 17, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Et l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est un mystère. » Ça corrobore cette idée sur laquelle seul le grand prêtre était habilité à dire le nom de Dieu une fois par an en entrant dans le Saint des Saints pour le jour de Yom Kippour. Sinon, le nom de Dieu est non seulement imprononçable, mais on dit qu'on n'en connaît même pas la prononciation. C'est parce que, justement, nommer Dieu, ce serait pouvoir dire quelque chose sur son être. Ce serait en quelque sorte pouvoir le posséder, oui. Et en fait, on ne peut même pas le posséder intellectuellement, voyez, parce qu'il échappe à nos catégories intellectuelles.
On a cette même interdiction dans la représentation de Dieu.
Oui, bien sûr. Mais, ça va, mais là, à la limite, ça va plus de soi, l'idolâtrie, on sent qu'il y a quelque chose qui est rendu captif. Mm-hmm. Mais dans le nom même de Dieu, dont vous vous souvenez peut-être, ou vous savez peut-être que quand Dieu se révèle, il donne à un moment donné son nom. Hein, c'est avec le buisson ardent. Vous êtes bien renseigné, vous. En tous les cas, oui. Ou je serai. Je serai. Parce que c'est l'inaccompli. Mais vous voyez, c'est justement intéressant parce que c'est quelque chose qui se construit sur le verbe être. Et un peu plus tôt, il a dit « ayez ailleurs, ayez à chair, ayez ». Si ce n'est que le verbe « être », en général, dans la langue hébraïque, est toujours sous-entendu. On ne l'utilise jamais. Donc, quand on l'utilise, comme là, ce serait plutôt le verbe « advenir » qu'il faudrait utiliser. Ou « surgir », je ne sais pas. Vous voyez, une sorte d'existence, de supplément d'être, en quelque sorte, par rapport à l'être comme quelque chose qui est un étant statique. C'est-à-dire que, du coup, là, c'est dynamique. Voilà. Et parce que c'est dynamique, eh bien, c'est insaisissable. À partir du moment où on fait une capture d'écran, on a quelque chose de figé qui n'est déjà plus ce qu'était la chose que l'on a voulu représenter. Quand on fait une photo de quelque chose, un instantané, bon, ben voilà, l'autre, c'est déjà périmé, voilà, c'est ça. Bravo, tout à fait, on est d'accord. Dans la perspective aristotélicienne, je vous fais une citation de Anima. Si une cause n'a pas de contraire, elle se connaît elle-même et est séparée et elle est en acte. Si une cause n'a pas de contraire, elle se connaît elle-même et elle est séparée et elle est en acte. Source dynamique. Hein. Donc, le dieu d'Aristote est une œuvre d'intelligence, en fait. Et donc, se connaît lui-même. Il est pensé de la pensée, en fait. C'est comme ça que les choses sont dites. Noesis, noesos. Nous, c'est la pensée. La pensée se pense elle-même dans la saisie du pensé, en sorte que la pensée et le pensé sont le même. Ça vous plaît, ça? C'est dans la métaphysique d'Aristote. Ok, c'est de la subtilité. Mais si on s'arrête un petit peu à ce qui est dit, c'est pas que un sophisme. La pensée se pense elle-même dans la saisie de la pensée, en sorte que la pensée et le pensé sont le même. C'est-à-dire qu'il y a une véritable harmonie. Tout à l'heure, on parlait de sagesse, c'est un petit peu ça. Une forme de contemplation, en fait. La contemplation, c'est le moment où il y a une telle harmonie qu'il y a une sorte d'osmose entre l'observateur et l'observation. Et quand on dit... Des fois, on est comme ça face à un paysage, et puis on dit on est en communion. Oui, il y a une forme de sérénité. C'est là qu'on embrasse... Voilà, on a l'impression de connaître la vérité du moment. Voilà. Il y a des moments aussi où on écoute une conférence et on a l'impression d'être plus intelligent. Où on écoute une prédication. Non, mais je ne vous parle pas de moi. Ça. Voilà, oui. Mais on le dit, ça. Il y a des gens qui, en les écoutant, on a l'impression d'être intelligent avec eux.
On a compris.
Oui. Voilà. Eh bien, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et comme si, finalement, on accédait à plus grand que ce qu'on avait connu jusque-là, alors qu'on n'a rien fait de spécial.
Mais en fait... On lit dans la Bible, quelquefois, tout d'un coup.
Mais tout à fait.
Quantité de fois un texte, et tout d'un coup, on a compris.
Tout à fait. Tout à fait. Et alors, voyez, cette approche aristotélicienne, c'est celle qui va nourrir la pensée de Thomas d'Aquin, par exemple, au Moyen-Âge. Il va faire une identification entre... l'intelligence et ce à quoi l'intelligence réfléchit. Donc entre l'intellect et l'intelligé. Et au fond, Thomas d'Aquin va aller jusqu'à dire que l'intellect de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et que Dieu connaît son essence, a fortiori. Dieu connaît son essence, donc Dieu connaît ce qui nous est fondamentalement incompréhensible, Dieu lui-même. Vous voyez, on est sur deux optiques complètement distinctes. Hein. D'un côté, on dit Dieu n'a aucune activité intellectuelle, et de l'autre, on dit l'essence de Dieu, c'est l'intellect. Choisissez votre camp. Hein. Donc... c'est là qu'on voit que la recherche philosophique ou théologique a un peu ses limites, c'est qu'on est dans la mesure de pouvoir justifier tout et son contraire.
Oui.
Pour corroborer un peu cette perspective aristotélicienne, on peut prendre dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. C'est un verset qui est des fois convoqué hein, pour cela. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. C'est pas dans les feuilles que je vous ai données, c'est.
Voilà.
Excusez-moi. Mais... à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Oui. Donc, il y a une sorte de cercle là. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que ce qui caractérise Dieu, c'est de pouvoir s'auto-examiner en quelque sorte. Donc c'est la capacité réflexive de Dieu, c'est son intellect pour le dire autrement. Dieu qui réfléchit à lui-même. Pourquoi c'est important? Parce que Augustin va dire...
L'esprit est au-dessus de Dieu.
L'esprit, oui.
Non, en fait... Oui, c'est une façon de voir les choses si on oublie le principe de la synonymie. C'est-à-dire que, sauf à considérer que Dieu, le Père, l'Esprit, le Fils, ce sont des entités séparées, etc. Bon, l'Esprit son de Dieu, ça veut dire Dieu s'interroge, en fait. Sauf, effectivement, à considérer que l'Esprit est une sorte d'hypostase séparée, distincte.
Quelque chose qui sort de Dieu, l'esprit.
Oui. Et, enfin, sortir de Dieu, c'est un peu compliqué parce qu'il faut...
Enfin, qui vient de Dieu.
Oui. Oui, oui. Hein? Qui enfin, trouve sa source en Dieu.
Qui trouve sa source en Dieu.
Voilà.
Qui vous permet de comprendre, justement, certaines choses qu'on ne comprendrait pas.
Oui. Certains diraient que c'est un peu comme un flux d'informations
voilà.
venant de Dieu, nous traversant, retournant à Dieu.
Voilà.
Hein? Chez Ésaïe, on dit la parole de Dieu en semence, elle produit du fruit, elle retourne à Dieu. Il y a un peu cette idée-là, finalement. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est plutôt le logos.
Oui.
C'est un peu l'équivalent du pneuma, l'esprit. Donc, vous voyez, il faut être calme un peu sur ces termes qui sont un peu synonymes, finalement. Mais pour Augustin, ça lui permet de dire quelque chose d'intéressant dans son De Trinitate, justement. À propos de nous et de notre connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elles sont que Dieu connaît les créatures. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres vivants que Dieu nous connaît. Il dit, mais c'est parce qu'il les connaît qu'elles sont. C'est parce que Dieu nous connaît que nous sommes des créatures.
Ouais. Le regard créateur de Dieu.
Ouais, c'est exactement cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une omniscience, mais en tout cas, c'est une science divine. Mais et en fait, c'est le point de vue de Martin Buber, d'Emmanuel Levinas et pour une part de Paul Ricoeur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un « je », un « moi », un « ego », il faut qu'il y ait un « tu », un « toi ». Je suis construit par le regard de l'autre. Mon avis, Augustin n'est pas au courant. Mais je crois que, dans une certaine mesure... Avec ce genre de formulation, il est un peu précurseur de la théologie des années 50, notamment développée par Robinson, qui était un évêque anglican, qui a écrit ce livre magnifique, « Dieu sans Dieu ». Qui est donc, alors le titre en anglais, c'était « Honest to God », donc être honnête vis-à-vis de Dieu. « Dieu sans Dieu », c'est sortir du supranaturalisme, c'est-à-dire ne pas considérer Dieu comme un super-être ou un sur-être, mais considérer Dieu comme, ou considérer le divin, parce que lui, il voudrait faire un moratoire sur le mot Dieu, le divin comme ce qui se révèle dans les relations de personne à personne et qui nous font grandir dans notre humanité, jusqu'à nous faire accéder à notre véritable humanité. C'est-à-dire, le divin, c'est ce qui... nous permet de croître dans toutes les dimensions où nous en sommes capables. La théologie orthodoxe dit cela d'une façon religieuse. L'humain, c'est nous divinisés. C'est-à-dire l'homme, c'est nous divinisés. Nietzsche le dit autrement, il dit « on a trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme ». C'est nous. Et donc, le divin, c'est ce qui nous permet de devenir vraiment nous-mêmes. Et le divin, ça se joue dans la relation de personne à personne, en quelque sorte.
C'est quand même un tiers.
Oui, enfin, en tout cas, c'est un autre, une altérité. Une altérité. La quintessence, c'est un peu une substance. Et le problème de la substance, c'est que ça reste matériel et que c'est un peu figé.
C'est pas une essence. Ça permet d'évoluer. Ça serait une certaine une forme d'évolution.
Ça ouais. L'essence, c'est en fait. Ce qui est nécessaire pour que quelque chose soit vraiment elle-même. Par exemple, de l'eau, il faut qu'il y ait deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Si vous en enlevez un des trois, c'est fichu. Qu'est-ce qui, chez vous, ne doit pas être enlevé, sauf à vous transformer, sauf à vous changer, sauf à vous dégrader même? Qu'est-ce qu'on peut retirer chez vous sans que ça dégrade votre note? Bon. C'est ça votre essence. C'est ça votre essence. L'essence, c'est ce qui est nécessaire pour que vous continuiez à être vous-même. Le reste, voilà, c'est superflu, mais c'est aussi contingent. C'est important dans la définition de l'être humain, l'essence de l'être humain. Oui. Est-ce qu'il faut avoir tous ses chromosomes? Est-ce qu'il faut avoir toutes ses capacités physiques, motrices, intellectuelles? Est-ce qu'il faut avoir lu toute la Bible? Est-ce qu'il faut parler une langue? Est-ce qu'il faut être capable de faire un cercle à main levée? Bon, voilà. À vous de voir ce qui définit l'être humain.
Ouais. Ouais. La solution, c'est qu'on était conscient de notre mort.
Ah, mais ça, c'est par rapport à l'animal, vous voulez dire. Oui, mais indépendamment, enfin, sans comparatisme. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est vraiment un être humain? Parce que moi, à la limite, j'aurais tendance à me... La mort, ouais, peut-être.
Non, l'amour. L'amour, non?
Ah oui, mais c'était pas pour que vous répondiez maintenant. Je vous laissais la question ouverte comme ça.
Je dis tout, quelque chose.
D'accord.
Pas l'amour.
L'amour. L'amour, peut-être. Même s'il semble que de nombreux animaux sont capables d'être d'avoir un vrai comportement amoureux. Et je crois qu'il y a une espèce de volatile dont...
Je ne parlais pas de l'amour héros, je parlais de l'agapé.
Oui, oui. Mais je crois que le pélican est capable d'agaper pour ses enfants.
Oui, certainement. Pratiquement toutes les femelles.
Et il me semble qu'il y a quelques canards qui se laissent mourir quand leur conjoint décède. Enfin, il y a des histoires comme ça.
Oui, certainement.
Bon. Le rire.
Le rire. La capacité de dérision. Bon. Bon. Pour l'instant, on va essayer de connaître Dieu avant de connaître l'homme. Mais bien entendu, en fait, dans cette perspective-là, connaître Dieu, c'est connaître l'homme. Parce que ce que nous disons du divin, c'est ce que nous avons à découvrir de l'humain. En quelque sorte, c'est dans l'idée du parachèvement. C'est pour ça que Dieu créateur, c'est une idée qui est restée. Une des images, je ne l'ai pas vraiment battue en brèche. Mais vous non plus, hein, ceci dit. C'est parce que Dieu créateur, au sens où on est toujours en train d'être créé. Voilà. Et justement, on est créé dans le regard de l'autre. Les relations interpersonnelles continuent à nous créer, et donc à nous parachever. Bon.
Le monde aussi est en création.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, je vous passe un peu sur Denis. Mais je vous en. C'est pour aller encore sur pire avec Leibniz. Leibniz, c'est en pleine période d'élaboration de la combinatoire. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le champ des possibles. La combinatoire, c'est le fait de savoir combien de combinaisons possibles existent à une situation donnée. Par exemple, les petits exercices comme ça en terminale, vous êtes dans le noir chez vous, vous ouvrez le tiroir où il y a vos chaussettes, vous savez que vous avez tant de chaussettes noires, tant de chaussettes blanches, combien de chances avez-vous de, comme ça, prendre au hasard deux chaussettes noires ou deux chaussettes blanches, voyez. Donc la combinatoire, c'est de savoir quelles sont les combinaisons possibles. Voilà, puis après les arrangements. Enfin bon, voilà. Bon. Du coup, pour Leibniz, combinatoire. L-E-I-B. C'est comme Leibniz. Ah bon? Vous le prononcez comment? Leibniz?
Oui.
Ah bon, Leibniz. Wow. Enfin, c'est lui, quoi. C'est l'homme du « nous sommes dans le meilleur des mondes possibles ». C'est celui qui a été croqué ensuite par Voltaire dans Candide. Il dit que l'intelligence divine est donc la source des possibles que la puissance actualise. Donc, c'est un peu ce que dira, dans une certaine mesure, la théologie du process. Dieu, c'est celui qui injecte du possible dans le monde, et puis notre puissance actualise ou rend effectif telle ou telle option. Et du coup, ce que dit Leibniz, c'est que la science de Dieu, la connaissance de Dieu, peut donc justement s'étendre à toutes les combinaisons possibles et en quelque sorte augmenter les probabilités. Et au fond, l'action de Dieu, c'est d'augmenter les probabilités. Non pas les chances que quelque chose arrive, mais augmenter le nombre de choix possibles. Ce qui préserve notre liberté. Au fond, Dieu augmente notre liberté en augmentant le nombre de choix possibles. Raphaël Picon travaille beaucoup sur cette question-là dans sa préface de John Cobb, par exemple. Est-ce que c'est à peu près clair, ça ? En augmentant le nombre de choix disponibles. Alors du coup, se pose effectivement la question de la liberté humaine. On peut se dire, est-ce que la préscience de Dieu donc, ne supprime pas cette liberté humaine ? C'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Donc, il faut penser qu'une action... Il faut penser que pour qu'une action soit libre, l'homme ait la liberté du choix. Et au fond, ça peut être une façon de comprendre la chose. Dieu connaît l'ensemble des possibles, mais l'homme reste libre de faire ses propres choix sans que le divin sache par avance quel sera le choix effectué. Sauf à considérer autre chose, c'est Matthieu 11, verset 21, c'est sur la troisième page. Malheureuse es-tu, Chorazin. Donc c'est un village qui est maudit. Malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elle se serait convertie. Donc, bon, là, c'est le Christ qui parle. Hein. Donc, ça, on va le rapporter au divin, le Christ. Pas en tant que Jésus, mais en tant que Christ. Donc, là, on a une phrase qui dit que le divin sait ce qui se passerait dans d'autres circonstances. Donc, il sait par avance ce que feraient d'autres personnes. Et ça nous arrive de le dire. Ah, si c'était ton frère, ça ne se passerait pas comme ça. Bon. La position de Leibniz, c'est de dire que Dieu sait ce que fera telle volonté libre dans des circonstances données. Parce que il est en quelque sorte capable justement d'évaluer quel est le meilleur choix possible. Et la liberté, c'est pas de n'en faire qu'à sa tête. La liberté, c'est d'adhérer au meilleur choix possible. Enfin, d'adhérer librement, en quelque sorte. C'est la différence entre la soumission et l'obéissance. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est un acte libre. La soumission, c'est un acte tyrannique. On soumet quelqu'un, on ne se soumet pas. Ou alors si... soumet notre âme à l'évangile, dans le cantique qui va bien, voilà. Mais là, c'est une licence poétique. La liberté, c'est le pouvoir que l'on exerce sur soi-même, en fait. Indépendamment de tout autre pouvoir.
C'est le contraire un peu de Sartre, ce que vous dites. Lui, il trouvait que beaucoup de choix, ça compliquait plus la vie.
Oui, mais ça rend pas moins libre pour autant.
Ça complique.
Mais en fait, la complexification, non seulement rend les choses plus intéressantes, mais elle les délie d'une fatalité. Oui. C'est-à-dire que, pour moi, la liberté, c'est pas avoir le choix entre du chocolat et pas de chocolat. C'est avoir le choix entre du chocolat blanc, chocolat noisette, chocolat noir, chocolat au raisin, etc. Pour citer Laurent Gagnouba. Pardon ?
Ouais, d'accord, j'essaie de prendre un exemple facile.
Mais, je dis là, oui. En 1848, je crois, Lacordaire disait, même en parlant des lois, que la liberté opprime aussi.
Bah, la liberté opprime,
C'était les contextes politiques de l'époque.
Mais à vrai dire, tout opprime. Votre présence sur cette salle exerce une pression sur mon corps.
Oui.
Vous m'opprimez. Et pourtant, je suis venu librement.
Oui, mais...
Et vous aussi, j'espère.
Mais on est paisible par rapport à...
Oui, c'est ça. Oui, gardez votre sérénité. Hein. Ouais. Voilà le point de vue de Leibniz, qui est donc un point de vue qui s'efforce de maintenir la liberté de l'homme, qui s'efforce de maintenir l'interaction entre le divin et l'homme, qui s'efforce de maintenir une science du côté du divin,
mais
qui lui supprime son omniscience. Ouais. C'est-à-dire que la science du divin, là, c'est pas un peu ce que vous craignez, que Dieu sache tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on pense, nos pensées malhonnêtes, nos pensées merveilleuses aussi. Parce que, en fait, ça rentre pas dans les catégories du divin. C'est-à-dire que quand même la position platonicienne est intéressante sur la non-activité intellectuelle du divin. Parce que pour que le divin pense, il faudrait qu'il ait effectivement soit un cerveau, soit des transistors ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, il faudrait qu'il y ait une matière qui autorise la pensée. Il faudrait qu'il, du coup, relève de l'être. Alors, si le divin relève de l'être, dans ce cas-là, on peut envisager cela. Si on considère que le divin ne relève pas de l'être, alors cela n'est pas possible au sens strict du terme. Ce qui pose la question de la prière. Du coup, Matthieu 6, 8, c'est la page d'avant, juste la dernière case. « Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Oui, mais pourquoi faut-il demander? Ouais. Demandez, on vous donnera. Voilà. Cherchez, vous trouverez aussi. Frappez, on vous ouvrira. Ou on vous rendra votre coup. Mais factuellement, du coup, alors si Dieu est omniscient, le fait de lui demander, ça veut juste laisser entendre que s'il est au courant de ce dont on a besoin et qu'il ne nous le donne pas, il est un peu... je vous laisse le qualifier. En revanche, si on lui demande pour qu'il nous donne, ça veut dire qu'il ne sait pas. Bon. Mais ici, il est question à la fois de demander et à la fois de « il sait par avance ». Oidor. Alors comment est-ce que ça peut... se comprendre, quelle quadrature pour ce cercle en quelque sorte.
Quand on est précis dans sa pensée, soi-même quand on sait bien ce qu'on veut, normalement ça doit marcher.
Oui. Alors, vous voyez, j'aurais tendance à décaler un tout petit peu ce que vous dites en disant, est-ce que la, et je le formule sous forme de question et d'hypothèse, est-ce que la prière, ce ne serait pas justement cette méditation qui nous permet de préciser un peu mieux ce que l'on demande, donc d'être un peu plus conscient non pas de ce dont on a envie, mais de ce dont on a besoin. Est-ce que la prière, ce ne serait pas, dans cette métaphore qui consiste à dire on se met à l'écoute du divin, le fait de justement se mettre dans une méditation qui permet de réaliser, de prendre conscience de ce qui est bon pour notre humanisation. Alors l'humanisation, elle peut se traduire aussi bien dans des choix très triviaux, de savoir si on invite tel ou tel à un repas de famille, si on embauche telle ou telle personne, si on va ici ou là en vacances. Mais l'idée selon laquelle les choix que l'on va faire ne seront pas sans conséquences sur nous. Et est-ce que ces conséquences vont dans le bon sens, pour le dire de façon triviale ? Du coup, est-ce que l'omniscience, je ne sais pas s'il faut garder, s'il faut sauver le terme omniscience. À vrai dire, peut-être qu'il vaut mieux pas, parce que pour le coup, il est vraiment chargé d'ambiguïté. Mais est-ce que, dans une certaine... Il y a deux bandes dessinées qui sont en vente, d'ailleurs au comptoir librairie, publicité gratuite, qui sont merveilleuses. Dieu n'a pas la réponse à tout, mais il sait à qui s'adresser. Et puis l'autre volume, c'est « Dieu n'a pas réponse à tout, mais il est bien entouré ». Autrement dit, non pas Dieu qui saurait tout, mais le divin comme alors, il faut trouver une métaphore qui colle bien. Le divin comme cette réserve de connaissances qui nous permet de nous réaliser. J'essaie de le dire dans les termes les moins religieux possibles. Je le dis avec les termes de la théologie du process, maintenant, histoire de me renouveler un peu, de ne pas toujours utiliser les mêmes théologies. L'omniscience, bien entendu, l'omniscience ne peut être attribuée au Dieu de la théologie du process. Parce que, dans la théologie du process, Dieu est un procès. L'être de Dieu, c'est d'être un procès. Donc, c'est d'être une interaction entre les hommes et le monde. Un procès que le divin ne gouverne pas intégralement, du coup. Que dit la théologie du process ? Elle dit que tout ce qui se passe, tout ce qui advient, nous, nous sommes comme des données. La théologie du process utilise les data, c'est un terme informatique. Nous sommes des données. Et la façon dont ces données sont agencées reconfigure l'univers, reconfigure l'ensemble de l'univers. Et que donc, les choix que nous faisons transforment le monde. Et le monde garde la mémoire de ce que nous avons fait. L'univers garde la trace de nos choix, de nos paroles, parce que nos paroles aussi sont des actes qui transforment le monde. Et donc, si on était suffisamment sensible, on pourrait retrouver dans l'état instantané du monde toute l'histoire de l'humanité, à vrai dire. Bon. Oui, en quelque sorte. Mais dans une certaine mesure, c'est ce que les astrophysiciens s'efforcent de faire en essayant de voir la lumière très très loin pour voir le monde en avant, en quelque sorte. C'est une métaphore pour dire, pour retrouver l'épaisseur de notre monde. Et donc, la science de Dieu comme le fait de retrouver chez l'autre, ou de trouver chez l'autre, de découvrir chez l'autre, l'humanité dont les textes bibliques s'efforcent de nous donner la teneur. Les textes bibliques, comme finalement, archives de ces données-là, archives de cet effort incessant du divin, c'est-à-dire de notre humanité portée à sa quintessence. Donc les archives bibliques comme bibliothèque contenant cette mémoire de l'effort divin pour nous faire accéder à la plénitude de nos capacités. Et du coup, les expériences des hommes au contact du divin comme ces expériences où se révèle véritablement leur être profond.
Ça s'inscrit dans le monde, C'est ça, en fait, l'éternité.
L'éternité, pour Jean Scott Erigène, c'est la vie. Mais oui, pas ça. La vie n'importe comment. Voilà. Paul Ricoeur dirait, ce sont ces instants, ces kairos, ouais, ça relève du kairos, c'est un instant de grâce où il se passe quelque chose qui sera inaltérable. Pourquoi ? Parce que justement, on est sur la question de l'essence. C'est-à-dire que nous vivons des moments qui nous correspondent. Vous voyez, une rencontre amoureuse, par exemple, ça peut être quelque chose qui relève de la vie éternelle, parce que le regard de l'être aimé était en quelque sorte en phase avec notre aspiration. C'est-à-dire que nous avons vraiment existé dans son regard. Et ça, rien ne pourra jamais l'effacer. C'est ce que dit Paul dans son épître aux Romains. Ni la mort, ni la vie, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien jamais ne pourra nous séparer de l'amour manifesté de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est vrai dans bien d'autres circonstances aussi. Cette vie éternelle se joue en termes de qualité et n'a rien de commun avec l'idée de l'immortalité. C'est en quelque sorte un diamant, vous voyez, pour essayer d'être dans le registre de la comparaison. Et ces instants de grâce composent au final une sorte de bibliothèque dans laquelle nous pouvons puiser. Ou inventer Dieu. Inventer, en français, c'est trouver. On invente un trésor. On le trouve, un trésor, en creusant. D'où la métaphore de Jacques Juillard. Y a-t-il des questions encore en suspens ?
Moi, j'ai trouvé cette parole de Valmer, du pasteur, qui est belle quand même. L'homme est l'espérance de Dieu.
Oui. L'homme est une espérance de Dieu, oui.
La traduction de... divin dans
l'humain. Oui. Oui. Oui, absolument. C'est la divinisation de l'homme, ce que diraient des théologiens orthodoxes, comme Berdiaev, par exemple, orthodoxe russe. Bon. Eh bien, alors, la prochaine fois, 14 février, je crois, oui. Sur le Dieu impassible pour la Saint-Valentin.
Ah.
C'est ça ? Oui, c'est le 14 février. Alors, il paraît que aimer, c'est souffrir.
Ouais.
Souffrir, en grec, c'est pathein. Donc, impassible, c'est celui qui ne souffre pas. Donc, c'est celui qui n'aime pas. Hein, je vous en ai déjà donné pas mal. Hein. Bon, allez. Rendez-vous le 14 février.